Et nous reprenons avec cette troisième et dernière partie, et c'est Yannick qui s'égole avec la critique du guide de Dungeon World.
Alors, pour quelqu'un qui aime pas Dungeon World, j'en parle depuis 4 numéros, j'y joue, j'ai tout lu.
Gourmand,
bah. Ouais, c'est ça, mais c'est la mécanique d'attraction-répulsion, ouais, c'est ça te dégoûte et en même temps ça t'attire.
Exactement, ah, exactement. Alors, je vais vous parler du guide de Dungeon World, qui est pas un bouquin officiel du tout, qui est pas édité, enfin qui est édité en PDF. C'est un livre en PDF de 68 pages. Je connais pas particulièrement les auteurs, mais il me semble que c'est des gens qui gravitent autour de l'auteur.
Akritarche.
Alors ça, c'est pas l'auteur, lui, c'est le traducteur.
Traducteur, ouais.
Ouais. Alors
donc, le Bastien Wotos.
Bastien Wotos, autrement dit Akritarche, que moi je connaissais pas. Hein, excuse-moi.
C'est mon MJ.
C'est ton MJ, ben voilà, et qui est pas mal connu sur les manifestement les forums français, la page officielle française de Dungeon World, et qui s'est collé à la traduction avec succès, à mon avis. La maquette elle-même est une maquette en deux colonnes simples avec pas mal d'illustrations qui sont pas tirées du jeu, qui sont des illustrations provenant d'un site d'illustration libre de droit, mais c'est quand même très joli et très bien fait. Enfin, on sent qu'il y a un effort dans la pédagogie, c'est-à-dire dans la maquette elle-même et dans la manière d'expliquer les choses. C'est un peu dense. Il reste quelques petites coquilles, mais plus des fautes de frappe qu'autre chose. En tout cas, ça m'a pas perturbé. Je suis pas tombé sur des erreurs de traduction et l'ensemble est vraiment bien, même si certaines expressions sont marrantes à lire, genre un mec qui fait pour sûr un joueur. Bon, moi
voilà. Ah, pour sûr, oui, mais, on n'entend pas souvent ça.
Oui, mais il est belge.
Ah putain, c'est ça.
Sérieux?
Non, mais
oui,
c'est explique.
Oui, il est belge. Oui.
Ah bah voilà, ça explique des choses.
Donc elles sont normales les
ça
expressions.
Explique,
tout va bien.
Explique les 90.
Genre les vous ne sauriez tout ça.
Ouais, vous ne sauriez machin. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment bien à lire, intéressant, limite original, mais j'avais pas compris que c'était du belge.
Mais... Fume, c'est du belge.
Fume, c'est du belge. Non, c'est un français extrêmement bien, il y a aucun problème, c'est vraiment vraiment intéressant à lire, c'est l'une des traductions les plus sympas à lire que j'ai lu depuis très longtemps. Et juste pour aller vite, ce bouquin est très exactement ce qu'il me manquait pour comprendre la série des Machin World.
Bah tu vois.
Attends. Donc c'est tourné vers Dungeon World évidemment, mais c'est valable pour tous les autres produits du même genre. Donc c'est pour moi c'est l'explication qu'il fallait. Alors déjà ça commence par une explication sur ce qu'est le bouquin et à quoi il sert. Donc c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une introduction qui soit une vraie introduction qui t'explique voilà je suis là, je fais ça et je vais vous dire ça. Ensuite on explique comment fonctionne une conversation dans le cadre du jeu, parce que c'est un peu le point central de ce genre de jeu, c'est la conversation et la narration et la manière de faire correspondre la narration avec le système de jeu. Donc on t'explique comment fonctionne une conversation dans le cadre du jeu ainsi que la mécanique de base. En gros, dans Machin World, le bouquin je vais l'appeler Machin World parce qu'il y en avait plein, les bouquins décrivent immédiatement une action et c'est à toi de comprendre le contexte, comment ça marche, pourquoi on fait un jet, etc. Il y a, à mon sens, assez peu d'explications sur simplement le contexte, comment on fait. Alors là, c'est tout expliqué. On t'explique ce que c'est un 7-9, je vais pas refaire le système de jeu, je vais considérer que vous le connaissez. Quel rapport il y a entre la narration elle-même et un jet de dés, sachant que c'est absolument fondamental. C'est le cœur même et le centre même du jeu, ouais, et ce qui fait
que c'est intéressant,
que ça bouleverse un certain nombre de conventions. Et le dire comme ça, les gens peuvent ne pas forcément le croire. Quand on t'explique que la narration sa relation avec le jet de dés, c'est fondamental, t'as l'impression que c'est comme ça dans tous les jeux de rôle. Bah, dans Machin World, c'est autre chose. Donc c'est très intéressant de l'expliquer, et il l'explique vraiment sur plein de pages, avec plein d'informations intéressantes. Pourquoi un échec n'est pas un échec? C'est juste une voie différente, une manière de rebondir différente, et notamment comment un MJ doit jouer ses actions en cas d'échec, enfin en cas d'échec au jet si tu veux. Quelles actions il doit placer, comment il doit les placer, pourquoi est-ce qu'il doit les placer, etc. Ça explique aussi comment raconter une action et son résultat pour rebondir. Il y a un chapitre complet qui est dédié au combat lui-même, avec des exemples alternatifs, genre on a fait le combat comme ça, mais on aurait tout à fait pu le faire comme ça, et voilà pourquoi c'est bien, et voilà pourquoi c'est moins bien. Il y a un petit point aussi sur la difficulté d'un combat. C'est-à-dire que dans les règles du jeu, les monstres, enfin dans Dungeon World en tout cas, les monstres sont décrits de manière extrêmement simple, avec simplement une carac, genre 5 points de vie, 8 points de vie, et puis un code de dommage, et c'est tout. Il n'y a rien sur leur pouvoir, il n'y a rien sur leur manière d'agir, etc. Si on s'en tient aux règles et qu'on est un petit peu procédurier, on se dit, bah voilà, on va parler de l'exemple.
Lequel
L'exemple massif qui est le dragon à 16 points de vie.
Il y a le dragon et il y a le limon vert, alors, ou je sais plus quoi, dans... qui est super bon aussi, alors, mais qui a le même but en fait.
Alors, ouais, le but.
Je te laisse expliquer.
Le but de l'explication, enfin le but de ce que je vais appeler entre guillemets le dragon à 16 points de vie, elle est là. C'est que sur les forums, il y a des gens qui sont posés la question en disant mais comment ça se fait que le plus gros dragon du monde de la mort, il a 16 points de vie et que mon guerrier il peut le péter en deux coups. Effectivement, si tu t'en tiens aux règles, tu fais ce qu'on appelle une action qui s'appelle monter à l'assaut, tu lui mets une patate, il meurt, et voilà. En fait, dans le bouquin, il t'explique exactement qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour approcher le dragon, il va falloir que tu esquives son feu, que tu sauves des gens qui vont mourir sinon, que y a du vent partout, qu'il met des coups de queue un petit peu partout sans s'en rendre compte et que tu peux pas lui faire de mal là-dessus, qu'il a une carapace énorme que de toute façon tu peux pas percer si t'as pas fait 12 actions avant qui permettent d'enlever, comme dans le Seigneur des Anneaux, une écaille avant, etc. D'ailleurs, pour moi, quand j'ai vu le Seigneur des Anneaux, le Hobbit numéro 2, toute la partie sur le dragon à la fin, pour ceux qui ont vu le film, m'a fait penser exactement à cette explication-là. C'est,
ouais, c'est ça, ouais.
Comment est-ce qu'on fait à un moment pour arriver à foutre sur la gueule du dragon qui a pas beaucoup de points de vie, mais il va falloir vraiment, vraiment lutter pour arriver à le faire arriver à tel ou tel endroit pour pouvoir lui mettre de l'or en fusion sur la gueule, enfin faire des choses comme ça. C'est vraiment, c'est très intéressant, et la manière dont c'est écrit dans le bouquin, là il parle pas spécifiquement du dragon, mais il parle un petit peu de voilà, la difficulté d'un combat, c'est quoi? Bah, c'est mettre une créature intelligente, c'est un gobelin comme les autres, sauf que le gobelin il aura des réactions plus intelligentes, il va reculer, il va faire attention à ci, à ça, il va pas se jeter simplement à l'assaut, il va utiliser une lance, il va utiliser des pièges, il va utiliser des choses comme ça. Rien que ça, ça te fait faire des jets en plus aux joueurs, et ça les oblige à réfléchir, ça ajoute de la narration, donc ça ajoute des jets de dés, donc ça ajoute très naturellement de la difficulté.
Ouais, des péripéties,
Et donc on arrive à...
Ça évite que les PNJ soient des robots de la viande.
C'est pas juste une arme et une force contre une créature.
Non, c'est même super pas ça, du tout, à jamais, à aucun moment. Donc limite, il n'y a pas besoin en fait des points de vie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je parlais du dragon à 16 points de vie qui est un symbole du problème rencontré par de nombreux joueurs et MJ à ce sujet. Le bouquin y répond... très très bien. Ensuite, on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on appelle les actions spéciales, c'est-à-dire des actions définies pour un univers, un personnage ou un truc vraiment très précis et pas couvert par d'autres actions. Elles sont souvent utilisées pour colorer l'univers. Typiquement, dans la campagne que là je suis en train de jouer, donc de John Ward avec Eric Nedan, là, sur Apostarius, il a créé une action spéciale qu'on doit lancer, donc un jet de dé qu'on doit lancer lorsque les joueurs se baladent dans la ville. C'est-à-dire le simple fait de se balader dans la ville peut générer énormément de problèmes, d'histoires, de choses comme ça. Il a créé une action spéciale là-dessus. Clairement, les résultats, donc ça ajoute de la tension, des rebondissements. Donc la manière de décrire, en tout cas de réfléchir et d'écrire ces actions, est expliquée dans le guide de Dungeon World. On y parle par exemple de la manière de les faire, pourquoi est-ce que c'est intéressant de décrire les questions ou les réponses dans un certain mode interrogatif plutôt que etc. Donc ça c'est bien fait. Ensuite il y a un chapitre sur les questions à poser, c'est-à-dire que beaucoup de choses dans Apocalypse World ou dans les Machin World, il y a beaucoup de conseils sur poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, exact. Ouais.
C'est-à-dire, qui tient le bébé? Pourquoi est-ce
qui
que
qui porte les torches?
Qui porte les torches? Enfin bon, les questions. Enfin, il faut que ce soit des
où
questions.
Où sont les toilettes?
Non, il faut que ce soit des questions ouvertes. Genre, explique-moi pourquoi t'es malade depuis une semaine. Donc,
pourquoi ce mec t'en veut à ce point-là?
Pourquoi ce mec t'en veut à ce point-là, etc. Donc, la manière dont on a de poser ces questions, c'est pas est-ce que le mec t'en veut, c'est pourquoi est-ce qu'il t'en veut. Donc, on a déjà l'indication qu'il t'en veut, et toi, tu dois trouver
raison. C'est des fausses questions ouvertes, en fait.
C'est des questions ouvertes orientées.
C'est des questions orientées, ce que tu disais dans le.
C'est ce que je disais dans le précédent podcast.
Tu induis un truc pas cool.
Tu induis un certain nombre de choses de base en posant ta question, et tu n'attends une réponse que sur le reste, sachant qu'il faut que ce soit ouvert pour pouvoir rebondir dessus. Donc là, il y a un chapitre qui t'explique comment faire, comment poser ces questions. Comment laisser des blancs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des questions qui ne soient pas répondues pour qu'elles puissent être répondues plus tard. Et donc là, t'en as pas besoin maintenant. T'as pas besoin de savoir pourquoi l'idole elle a des yeux qui brillent. Ce que t'as besoin de savoir, c'est est-ce que tu vas les voler ou pas, ou à l'inverse, pourquoi tu les as volés. Pour toi, t'es déjà te mettre dans la merde. Ensuite, il y a un exemple de front avec les problèmes, les opposants. Donc là, pour moi, c'est moins utile, mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire en ayant répondu à toutes ces questions-là. Le chapitre suivant parle des nouvelles races et plus généralement des classes abrégées. Alors les classes abrégées, c'est dans Dungeon World, on a des classes de personnages type guerrier, magicien, etc. Et là, on a un truc qui s'appelle les classes abrégées, c'est des ensembles d'actions nouvelles qui permettent de donner à un personnage un certain cachet. La première action de la liste pose une condition pour son obtention, ainsi qu'un ensemble de règles associées. Par exemple, tu as une classe qui s'appelle le marcheur de l'abysse, qui donne l'action marquée par l'abysse, qui est une sorte de handicap physique chelou qui file des pouvoirs. Et ce truc-là ne peut être obtenu qu'après un voyage dans les abysses pendant lequel tu as rencontré quelqu'un, etc. Donc une fois que tu as rempli la condition, tu achètes le premier, j'allais dire le premier atout, non, la première action. Et ensuite, à chaque fois que tu montes de niveau, tu peux choisir soit une action de ta classe de personnage classique, soit une action de ta classe abrégée. Moi, je trouve ça fantastique. Vraiment, ça te permet une combinaison de personnages incroyable. Vas-y.
Non, non, je, rien, je te vois kiffer, c'est tout.
Ah, moi, je kiffe grave.
Ça te rappelle les secrets dans Lady Blackbird aussi?
Ça me rappelle les secrets dans Lady Blackbird. Ça me rappelle, on est en train de... Il y a Eric Newdon qui est en train de réfléchir à une... un archipel.
J'y pensais
world.
En même temps que toi, je pense.
Voilà. Archipel world, et clairement t'as moi je trouve ça génial, hein, il en faudrait plein partout. Je pense que c'est par exemple la meilleure manière de placer les archétypes d'archipel, pour ceux qui connaissent, c'est par exemple les femmes fatales, les choses, ou les automates, ou les trucs, que ça c'est les classes particulières, dans le cadre de, donc, d'archipel world. Je pense que c'est le meilleur moyen de décrire ce genre de choses. Il y en a une demi-douzaine qui sont indiquées. Par exemple, tu as le dragon qui est indiqué. Tu peux jouer un dragon, mais tu vas jouer, par exemple, je sais pas moi, un magicien dragon. Donc le fait d'être dragon, c'est juste des petites choses en plus, mais globalement, tu restes un guerrier.
Dragon, c'est vraiment trop petit joueur. Alors il faut être magicien dragon. Sinon,
tu peux être
pas...
magicien dragon, évidemment, mais c'est même le principe. Non, là, c'est quelque chose qui colore ton personnage. Donc bref, c'était pas mal. Ensuite, le chapitre suivant, c'est un exemple de partie assez détaillé. En tout cas, le combat. Puis c'est tout. Un exemple de combat, et puis c'est tout. Voilà. Et puis il y a quelques petites choses à la fin, bon, ça va assez vite. Alors, ma conclusion, je crois que vous avez un petit peu compris, moi j'ai trouvé ce bouquin extrêmement intéressant. Ça touche en profondeur les sujets qui justement moi me gênaient, et que je comprenais pas, et je comprenais pas l'engouement des gens, et j'avais déjà dit la dernière fois que c'était forcément des gens qui avaient été initiés par d'autres, donc qui s'étaient pas posé la question de savoir comment ça fonctionnait, ou qui l'avaient mieux compris que moi, ce que je veux bien croire. Et pour moi, ça a été, ce fichier-là, il a été créé à partir du même manque que ce qui a permis de faire Lady Blackbird pour les nuls. Pour moi, ça participe de la même histoire.
Mais en fait, tu l'as décrit de la même manière, quasiment. Bah, enfin, je veux dire en termes d'engouement.
Ah bah peut-être, oui, bah, parce que pour moi, c'est l'exacte réplique du truc. C'est-à-dire que Lady Blackbird, tu lis, c'est de la grosse merde, excusez-moi. Et puis quand tu... Non, non, c'est de la grosse merde.
J'irai pas jusque...
C'est non, incompréhensible, non. En vrai. Et après, tu vas sur les forums, tu lis...
Tout est écrit.
Tu lis le Lady, tu lis le Lady Blackbird pour les nuls,
de lire.
Et là tu fais alléluia, ça c'est clair.
Mais c'est vrai que c'est problématique de penser qu'il faut un truc comme ça pour...
Non, ce qui est problématique, c'est que les mecs qui ont fait ce genre de jeu n'aient pas pensé à le faire en
eux. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment tu te dis, mais pourquoi l'auteur il n'y a pas...
Apocalypse World, c'est le bouquin le plus anti-pédagogique que j'ai jamais lu, moi. Avec mon avis à moi que j'ai.
Parce que ça dégage, voilà, un feeling.
Ce qui est terrible, c'est que pour dédouaner un petit peu les auteurs de Dungeon World, je me souviens avoir. Quand j'avais. Mais non, je n'étais pas tout seul, nous étions tous là. Pour le live de Radio Rollist, même toi, tu étais là,
même
Laurent.
Quoi.
Et lorsque Johan Tipion parlait de jouer By the Book. Et les premières fois où il avait confié ses règles de jeu à quelqu'un d'autre que lui, des fois les joueurs avaient de tels comportements qu'il disait qu'il en tombait de sa chaise.
Je me souviens qu'effectivement il expliquait qu'on peut facilement, je pense, interpréter les règles d'une certaine manière, et effectivement moins le livre est pédagogique, plus il y a de risques de ou de pas comprendre. Ce qui est terrible, c'est que tu décris un truc ou un jeu où aujourd'hui tu prends du plaisir, alors que à la lecture et peut-être au premier jeu, ouais, ça marchait pas, quoi.
Ah non, mais c'est-à-dire que si t'arrives à faire en sorte que quand tu sortes un jeu, il y a d'autres gens qui écrivent un manuel pour comprendre ton jeu, qu'il y avait un problème au départ.
Moi, je serais vexé. Hein.
Moi, je trouve que c'est pas bon. C'est juste, enfin, c'est pas bon en soi. C'est super que le bouquin existe, et l'ensemble des deux fait que effectivement, et je ne m'excuserai pas auprès des gens qui me l'ont demandé, je reste convaincu que c'était mauvais au départ, mais grâce à ce genre d'ajout, ça devient intéressant, kiffant, on comprend les tenants, les aboutissants, on suit une réflexion organisée de gens qui ont travaillé sur le sujet pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé des semaines à écrire ce bouquin-là, à discuter entre eux sur des forums, et tu en sors...
Des semaines...
En jeu vidéo, on appelle ça des patchs. C'est un peu le truc.
Ouais, enfin, t'en sors la suite.
C'est un DLC, là aussi.
Non, mais c'est ça, c'est un
mais
truc
gratuit.
Où ça sort buggé, et par contre, ce qui est dommage, c'est que
d'ailleurs,
le truc de base est intéressant, mais... Mais en tout cas,
c'est pas bugué, il marche très bien, le bouquin de John World ou Apocalypse World.
Ouais.
Simplement, pour un mec comme moi, J'avais juste pas compris. C'est-à-dire, je comprenais pas. Et en plus, ça m'énerve d'autant plus quand je vois que tout le monde comprend autour, ça me stresse.
Ouais, mais t'es en train de. Enfin, à mon avis, tout le monde n'a pas compris de la bonne manière. Après, s'ils sont obligés de faire ça, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites de la bonne manière.
Moi, c'est ce que je me dis.
Sur les questions que tu parlais, le fameux dragon à 16 points de vie. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas saisi ce truc-là.
Bah oui, parce que tu vois un dragon à 16 points de vie, tu fais deux montées à l'assaut, il meurt. Et tu dis, mais il était où le dragon ?
Donc, si t'as pas compris le jeu. Enfin...
Il est où le dragon, là ?
T'as pas compris ce qu'était un dragon.
Non, mais il y en a plus.
Voilà. Non, mais voilà, t'as pas compris.
Ouais, bah ouais, c'est vrai. Et les forums.
Dans les conditions de la fiction.
Non, parce que t'as été habitué avec Donjons et Dragons, voilà, avec voilà, des dragons, des mini-dragons qui avaient 7 points de vie, des gros qu'on avait 300, et que ton niveau de puissance de perso, il fait que tu vas pouvoir combattre tel type de dragon ou tel autre. Là, t'arrives devant un truc qui est narrativiste. Où on t'explique que putain c'est un dragon et toi tu dis bah ouais mais il a 16 points de vie dans les règles, je vais le péter en deux. Et là le maître de jeu qui a compris il fait non mais attends déjà tu vas voir comment tu vas t'approcher
déjà
du truc.
Quand tu te seras pris deux coups de queue et...
Non mais avant même de combattre c'est qu'est-ce qui se passe autour, il souffle, il vole, il a rien à foutre de toi, il pète dessus.
Mais ça veut dire qu'un jeu comme ça ne peut pas juste aligner les caractéristiques, enfin il faut que ce soit expliqué à mon avis. Parce qu'on a tellement l'habitude d'autres méthodes qu'il faut.
Et c'est une erreur dans Dungeon World. C'est que dans Dungeon World, t'as des listes de monstres avec des points de vie, des codes de dommages, avec éventuellement des. Non, ils ont des. C'est pas vrai. Je suis mauvaise langue. Ils ont aussi des moves spécifiques, c'est-à-dire des actions spécifiques qu'ils peuvent faire. Genre, lui, il peut lancer un sort, mais il y a pas de règle. Il dit voilà, il peut lancer un sort et bloquer un mec, etc. Donc c'est pas vrai. Il y a pas rien. Il y a une manière de jouer qui est décrite dans les moves. Mais bon. C'est, pour moi, c'est effectivement pas suffisant et ça gagnerait.
Il y a les moves de monstres aussi qui sont.
C'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est les moves de monstres. Donc voilà, donc pour moi, c'est très bien et c'est téléchargeable gratuitement sur RPG Now. On mettra le lien.
Et on peut le downloader en dur. Enfin, on peut le faire.
Vas-y, explique-toi.
Non, on peut le commander au dur comme sur Lulu. Et il est à 10,80$, je l'avais vu.
Quel est le prix du frais de port?
Ça doit faire 8€, un truc comme ça. Mais bon. Voilà. Là pour moi. Alors, merci beaucoup.
Pour la petite anecdote, suite à au commentaire justement sur Lady Blackbird la dernière fois, moi modestement je produis des petits trucs des fois pour Monster Heart, des petits one shots, et du coup j'ai rajouté un petit mode d'emploi.
Oh,
d'une demi-page sur 6, en me disant juste, c'est vrai que les gens vont peut-être pas se douter que si j'ai mis des cases, ça représente peut-être de l'XP, des points de vie, des machins, des trucs. Ou si j'ai surligné des trucs en gras, ça veut peut-être dire que, etc. Donc j'ai juste mis une petite notice explicative sur des petits trucs comme ça.
Et bah c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire.
C'est clé, c'est pas le tout d'avoir des idées de monde, univers ou de système. Après, c'est en plus, il faut les expliquer.
Tu ponds le truc qui sort, effectivement, puis t'as pas nécessairement des gens qui vont mettre des commentaires ou quoi que ce soit, des gens qui vont dire oh, j'ai rien bité à ce que t'as écrit. Donc, de toute façon, toi tu dis
bon, déjà.
Ça se trouve, quelqu'un me lit dans les cosmos.
dans le cosmos.
Ouais, moi j'ai un peu la même truc. Le mec qui me dit je déteste ton jeu, je fais mais tu m'as lu. Bah non, ah merde.
Tu serais pas chez Radio-Liste. Bah si, pourquoi? Merde.
Voilà.
Alors, dans les commentaires, on nous suggérait de critiquer des jeux gratuits. Et,
ça coûte trop cher.
Je trouve l'idée intéressante et en plus, j'en ai un sous la main que j'ai découvert il y a pas longtemps alors qu'il est sorti il y a au moins 6 mois. C'est le jeu d'un mec de Casus Noe qui s'appelle Schlopoto.
Arrêtez avec les pseudos un moment.
Mais en fait, il a un vrai nom et tout, mais je ne m'en souviens plus. Son jeu s'appelle Pirate, avec un point d'exclamation, comme le film de Polanski. Et en fait, ça reprend un petit peu le même état d'esprit. Et ce jeu est vraiment, vraiment génial. Tu as quelques caractéristiques qui sont du genre fureter, tout détruire, enfin je ne sais plus quel est le terme. Tu as 6 caracs comme ça qui déterminent les actes que peuvent faire les pirates. Donc il y a détruire, il y a fureter, il y a faire d'autres trucs, je ne sais plus lesquels. Pas manquer de respect, mais discuter ou...
Insulter.
C'est
titiller, je crois.
Titiller.
Un truc dans ce genre-là, qui permet d'aller dans les bars. Il y a aussi boire, et il y a je sais plus quoi d'autre. À chaque partie, au début, tu tires un des 6, ça correspond à la caractéristique que tu dois jouer tout de suite. Donc tu vas faire en sorte de commencer à te bastonner ou à boire ou un truc comme ça gratuitement, voilà, pour lancer le jeu.
Alors c'est très marrant dans la manière dont c'est écrit, parce que c'est le petit mousse en fait
qui parle avec son capitaine.
Et c'est le capitaine qui t'explique progressivement les règles. Et toi, le lecteur, bah t'es à la place du mousse stupide qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on détruit ça dans tous les sens.
Il s'appelle, je sais plus, pas que Note ou je sais plus quoi.
Ratiche.
C'est
pas Ratiche, c'est Ratiche. Le mot,
c'est mignon.
Et ça existe environ en version pirate de poche aussi. Une version vraiment imprimable en tout petit, etc.
Oui, oui, en pocket mode.
Voilà,
ou un truc comme
pour
ça.
Ranger à côté de votre dragon de poche.
Donc, chaque action que tu joues se fait avec ces caracs. Tu as des interdits en tant que pirate. Il y en a un, c'est caresser les portes ou je sais plus quoi.
Oui,
c'est qu'en fait, tu peux pas ouvrir les portes avec les mains.
Faut que tu défonces les portes à chaque fois que t'arrives.
Tu les défonces, ouais, alors ouais. que ce soit à coup de hache, à coup de tête, avec le corps de quelqu'un d'autre ou à coup de pied. C'est pas grave, ouais, mais tu fais.
Parce que je crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière la porte aussi. Ouais. Niveau du coup l'enfoncer. Enfin, il y a plein d'explications comme ça très rationnelles.
Et puis c'est pour les domestiques tout ça. Il y a un truc, c'est faire des trucs de naze ou je sais plus quoi. Et en fait, c'est tout ce qui concerne le fait de réfléchir, tout ça.
D'accord.
Et il y a aussi un autre interdit, c'est réfléchir avant d'agir.
Pas mal. Bon, c'est le credo de beaucoup de joueurs. Mais...
Et en fait, je trouve le jeu super bien conçu parce qu'il est exactement taillé pour ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, on veut des aventures où on se tape dans les auberges pour des raisons débiles avec des personnages un peu cons. Et en fait, c'est chouette, quoi. Et toutes les règles sont orientées dans ce simple but. Il y a très peu d'illustrations, c'est dommage, mais celles qu'il y a sont plutôt rigolotes.
C'est de la détente, quoi, un peu.
Ouais, voilà, c'est de la détente. C'est pour jouer à la plage ou avec ses mômes. Et c'est vraiment cool et ça m'a bien plu. Voilà. Ah, les gens commencent à s'habiller. Car il est très tard.
C'est
mais
qu'on est sur la
de
fin.
Toute façon, nous allons nous quitter. Et ma foi, j'espère que cette émission vous a plu. Et puis, je vous dis au mois prochain.
Et bonne année.
Bonsoir.
Au revoir à tous.
Salut.